Bonjour Léa.
Bonjour.
Après avoir écrit sans réponse aux différents représentants de l'État, administration pénitentiaire et autorités de proximité, vous avez écrit une lettre ouverte à la ministre de la Justice au sujet de la situation dans les prisons en cette période d'épidémie. Déjà, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles mesures ont été prises dans les établissements pénitentiaires pour faire face à la crise sanitaire ?
Bien, en fait, de la part de l'État, il n'y a eu que des recommandations. Et finalement, c'est à chaque prison de décider des mesures qu'ils vont mettre en place. À part effectivement que toutes les activités ont été interdites et les parloirs aussi, suspendus. Mais sinon, au niveau des mesures de protection, l'académie donne des recommandations aussi. Mais il n'y a pas eu, au niveau des mesures de protection sanitaire, il n'y a rien eu de fait en fait. C'est-à-dire que l'académie interdisait même à toutes les prisons d'accepter les protections qui pourraient venir de l'extérieur. Et ils ont mis tous les détenus, les 70 000 détenus français, les ont mis en situation d'isolement, situation punitive, ce qui est interdit par la loi. Donc ils dérogent à leur propre loi.
Donc il n'y a pas accès à des masques, il n'y a pas accès à de gel hydroalcoolique, de savon pour les détenus et pour les personnes qui travaillent aussi dans ces centres pénitentiaires ?
Ça dépend de chaque prison. Il y a des prisons qui vont en avoir, d'autres non. Il y a des prisons où même des détenus vont en avoir et d'autres non. Ça dépend aussi des bâtiments, selon le centre de détention ou la maison d'arrêt, les quartiers arrivants. Et ça, c'est quelque chose, donc on ne peut même pas faire de généralisation là-dessus. On ne peut même pas dire, voilà, dans les prisons françaises, c'est comme ci ou comme ça, parce que ça dépend de chaque établissement. Il y a eu même des annonces de fait, oui, il y a 100 000 masques qui vont arriver en France pour les prisons. Bah, mais un masque, c'est utilisé une seule fois. Donc en soi, il faudrait 100 000 masques par jour. Ce qui est donc totalement insuffisant. Tout ce qui est mis en place est insuffisant pour répondre aux besoins.
Et au niveau de l'accès aux soins, comment est-ce que ça se passe ? On sait qu'en règle générale, déjà, l'accès aux soins en prison, c'est compliqué. Est-ce que là, des mesures particulières ont été mises en place ou est-ce qu'on se retrouve dans la même situation qu'avant ?
On va dire que ça peut être comparé à la même situation qu'avant, mais c'est pire, c'est forcément pire parce qu'il y a plus de besoins, il y a aussi la peur elle est énorme parmi les détenus. Toutes les personnes qui ont des difficultés respiratoires, toutes les personnes qui sont âgées, elles ont très peur, donc elles vont forcément plus souvent solliciter un soutien médical. Parfois, certaines prisons, ils ont même pas de savon pour se laver. Certaines prisons, ils ont juste, ils sont trois dans une même cellule et ils vont avoir un lavabo pour faire leurs soins. Donc effectivement, il y a un médecin, il y a une infirmerie dans chaque prison. Sauf que déjà, le médecin doit s'occuper d'un nombre énorme de détenus. Et à côté de ça, si jamais dans leur propre cellule et dans leur propre vie quotidienne, ils ne peuvent pas faire attention à leur santé et prendre soin d'eux, c'est toujours la même question en fait. C'est la prévention qui est plus importante en fait que de juste après venir soigner les gens.
Est-ce qu'il faut donc plus d'accompagnement et plus de prévention qui serait mise en place justement dans les prisons, dans les centres pénitentiaires, au niveau des détenus, mais au niveau aussi des personnes qui y travaillent ?
Oui, c'est ça. Il faudrait mettre plus de moyens dans la prévention de tous les risques sanitaires dans les prisons afin que tous les détenus puissent se protéger et ne propagent pas ce virus.
Parce que pour l'instant, ils n'ont pas accès à l'information ?
Ils ont accès. Ils ont accès à toutes les informations dont ils peuvent avoir besoin. Mais après, tout est caché. Par exemple, même dans chaque prison, c'est jamais dit quand il y a suspicion de cas, ça va jamais être confirmé ou ça va toujours être que des on-dit, des on n'est pas sûr, on croit qu'il y a eu un cas. Même les équipes pénitentiaires ne sont pas au courant de ce qui se passe dans leur même prison. Alors qu'il y a des cas qui sont avérés, ça va y avoir un surveillant qui va le dire pour la prison, un autre surveillant qui va le démentir parce que l'un était là, l'autre n'était pas là et quand il n'est pas là, personne ne lui dit.
Et donc ce genre de choses, ce genre de rumeurs, ça augmente le stress, j'imagine, ça augmente la peur et le fait de se sentir pas bien aussi dans sa cellule, dans sa prison.
C'est ça, ouais, parce que déjà, il y en a plein qui voient certains de leurs proches mourir dehors et eux, ils sont enfermés et eux aussi, il y en a qui sortent plus, ça fait 2-3 mois qu'ils sont plus sortis de leur cellule parce qu'ils ont peur de ça et qui restent 24 heures sur 24 dans leur cellule enfermés parce qu'ils ont peur et ça dépend de chaque personne et dans les zones les plus touchées, c'est une pression énorme, ouais.
Il n'y a pas assez d'accompagnement psychologique ?
Non, il n'y en a absolument pas d'ailleurs. Il n'y en a absolument pas.
En règle générale non plus ?
Oui, voilà, même les surveillants eux-mêmes ne font pas de formation de soutien psychologique ou de compréhension psychologique pour les détenus. Donc non, ça, il n'y a pas.
Vous l'évoquiez tout à l'heure, l'accès au parloir est interdit depuis la mi-mars. Donc les détenus n'ont pas le droit non plus d'avoir un téléphone portable. Est-ce que du coup, certains n'ont pas eu la possibilité de parler à leurs proches depuis près de 2 mois ?
Oui, c'est pas le cas parmi les personnes qui ont écrit la lettre, mais par contre, nous, on a eu plein de témoignages de gens qui nous ont dit qu'ils n'avaient aucune nouvelle de leur conjoint depuis le début. Et même moi, pendant le confinement, il y a eu un mois où j'avais plus de nouvelles de mon conjoint, où il n'y avait aucun moyen de se communiquer. Parce qu'il y a les lettres, mais les lettres, ça coûte cher aussi en prison. c'est la moitié de leur budget quand même, pratiquement. Et avec la poste, c'était des délais plus grands. Et puis le téléphone, c'est pareil, ils nous ont donné de l'argent pour le téléphone. Mais rien que ça, de dire on donne 40 euros à chaque détenu, c'est absurde parce que eux, ça leur coûte pas 40 euros. C'est quand même 10 euros l'heure, pratiquement. Pour personne dans le monde entier, ça coûte 10 euros pour, on paye 10 euros pour téléphoner une heure. Donc c'est absurde, c'est toujours des vocabulaires comme ça à utiliser pour dire oui, on met des choses en place, alors que bah non, en fait, il y a rien qui est mis en place parce que 5 heures dans un mois pour parler avec toute ta famille, tous tes proches, c'est rien, c'est insuffisant. En une semaine, il y en a plus de 5 heures. Pour certaines prisons, les téléphones sont dans les cellules quand ils sont en état de fonctionnement, donc ça peut être une solution trouvée. C'est vrai que ce serait bien d'installer, et c'est d'ailleurs prévu, mais c'est pas mis en place encore dans toutes les prisons, qu'il y ait les téléphones dans chaque cellule. Mais sinon, dans donc la majorité des prisons, les téléphones sont dans les couloirs. Et donc là, effectivement, on donne 40 euros pour les personnes pour qu'elles puissent appeler leurs proches. Sauf qu'au final, ils utilisent tous le même téléphone. Et donc finalement, comme on le dit dans la lettre, c'est absurde de trouver ça comme solution parce que c'est ce qui va favoriser finalement la propagation du virus.
Et le fait que la conversation téléphonique se tienne dans le couloir, ça empêche toute intimité, j'imagine.
Ah ben oui, c'est ça, hein. Vraiment, tout le monde écoute, les surveillants qui passent et tout. Moi, quand j'ai mon conjoint au téléphone, voilà, je l'entends qu'il parle avec d'autres gens quand il passe à côté et tout, c'est il n'y a aucune intimité. Et puis on sait de toute façon que c'est écouté par d'autres surveillants, donc il n'y a aucune intimité.
Vous relevez justement dans votre lettre que ce confinement en cellule s'apparente en fait à une mesure disciplinaire, parce qu'il n'y a plus d'activité non plus pour les détenus, vous l'avez dit tout à l'heure. Comment est-ce que cette mesure a été perçue justement du côté des détenus et des familles de détenus? Est-ce qu'il y a eu des protestations?
Il y a eu pas mal de protestations, oui, mais après en soi, moi j'ai ressenti personnellement que les détenus le comprenaient parce que ça reste une crise sanitaire, eux-mêmes ne veulent pas l'attraper, donc eux-mêmes ne veulent pas aller se mélanger et rentrer en contact avec d'autres détenus, c'est normal. Donc en fait, ils ont compris qu'il fallait pas réduire les contacts, sauf qu'il y a des solutions qui sont à leur portée et qu'ils peuvent mettre en place dans les prisons pour permettre aux détenus d'avoir une activité, en fait, de juste ne pas rester enfermé dans une pièce de quelques mètres carrés toute la journée. Il y a plein de solutions qui peuvent être apportées, il y a plein de prisons qui l'ont fait. C'est juste que, suivant déjà rien que l'âge de la prison, les nouvelles prisons vont être plus en mesure d'apporter des solutions que les anciennes prisons qui sont insalubres comme pas possible.
Qu'est-ce que vous imaginez, vous, par exemple, comme solution qui pourrait être trouvée?
Faire plus de créneaux de promenade en mettant moins de détenus d'un coup ou en faisant des ateliers, mais juste en respectant les distances de sécurité et en ayant, bien sûr, des moyens de protection tels que masques, gants et gel hydroalcoolique, par exemple, pour tous les détenus. Si jamais, déjà, ils avaient ça, ils pourraient refaire des activités où il n'y a pas de contact, mais où on serait dans la même pièce, par exemple, des ateliers d'écriture ou les cours, par exemple, les formations, tout ça, c'est possible. Si on respecte les consignes de sécurité, c'est possible.
Vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'il y avait une grosse montée de tension et de stress dans les prisons. Et vous évoquez notamment dans la lettre aussi des violences physiques ou morales qui sont commises par certains surveillants pénitentiaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles formes elles peuvent prendre ces violences et qu'est-ce qui explique qu'elles ne soient pas punies par l'administration pénitentiaire?
Eh bien, en fait, normalement, pour envoyer un détenu au quartier disciplinaire, c'est au directeur de donner l'accord. Sauf qu'il peut déléguer ce pouvoir-là à un de ses sous-officiers, je ne sais plus comment on appelle ça. Mais cette personne-là doit pouvoir montrer le papier comme quoi il a le pouvoir de mettre les détenus en quartier disciplinaire. Or, on constate que dans toutes les prisons de France, dès qu'un détenu s'oppose à quelque chose, demande quelque chose, par exemple, voilà, il s'est fait fouiller sa cellule, on lui a enlevé sa chaîne Hi-Fi, par exemple, qu'il n'y a aucune raison d'enlever une chaîne Hi-Fi, il va protester, c'est-à-dire que son seul moyen de protester, c'est de refuser de remonter de promenade, par exemple. Donc, il va refuser de remonter en promenade. Et au lieu de l'écouter, on va directement l'envoyer au quartier disciplinaire. Ça, c'est ce qu'on voit dans pratiquement toutes les prisons, dans pratiquement les 90% des cas. Il n'y a pas d'écoute des personnes, des détenus.
Ils n'ont aucun moyen d'action, en fait, de protester.
C'est ça. Ils peuvent juste bloquer. Après, une fois que, par exemple, s'il y a 5 cellules de quartier disciplinaire, les 5 sont remplies, ils ne peuvent plus. Donc là, les prochains à contester vont peut-être obtenir plus de réponses. Donc, ils peuvent bloquer le mitard. Comme ça, mais ça reste une solution qui n'est pas acceptable pour leurs conditions.
Et actuellement, justement, est-ce que ces tensions, ces violences de la part aussi de certains surveillants pénitentiaires ont augmenté à faveur de l'épidémie?
Je ne saurais pas vous répondre à ça parce que ça dépend de chaque prison. Après, je sais que celle de Rennes, par exemple, c'est toujours pareil. Il y a toujours des palpations, il y a toujours des fouilles de cellules tout le temps. C'est incroyable. On ne comprend pas en fait comment c'est possible dans une crise sanitaire comme ça où on explique bien qu'il ne faut rien toucher, qu'on puisse encore palper les détenus et fouiller et toucher toutes leurs affaires alors que nous-mêmes, on vient de l'extérieur et qu'on est peut-être porteur du virus.
Parce que ces fouilles sont faites sans mesures d'hygiène sanitaire précises. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de gants.
Pas forcément. Ça dépend aussi de leurs envies à eux, aux surveillants. Tout simplement. Et non, ouais, c'est toujours pareil. Hein. C'est toujours pareil. Là même, on a vu, là, avec toutes les émeutes qu'il y a eu et tout, à chaque fois, dès qu'ils ont tenté de dire quelque chose, de se défendre, c'était directement les Iris qui étaient envoyés pour venir les calmer. Et les Iris, jamais une seule fois, ils ont fait une opération dans le calme. Jamais une seule fois, ils ont fait une opération sans violence, en fait. C'est leur manière de réagir, quoi.
Donc, c'est la répression, pas de dialogue et puis pas d'écoute.
C'est ça. Après, il y a quand même une part des surveillants qui sont très bien et qui sont à l'écoute des détenus. Et heureusement, et grâce à eux, les détenus peuvent récupérer des choses, peuvent obtenir des réponses, obtenir de l'aide et du soutien aussi. Parce que du coup, ça va être ces surveillants-là qui vont apporter le soutien psychologique aux détenus. Mais hélas, ça ne pallie pas le problème de la violence des autres.
Vous reportez également dans votre lettre le fait que chaque prison est un peu un foyer épidémiologique en puissance. Et vous reportez aussi les mots de Adeline Hazan, qui est la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, qui a alerté l'État en France le 17 mars sur les risques de propagation du virus en milieu carcéral. Selon vous, est-ce que c'est un échec de l'administration de ne pas réussir à protéger les personnes qu'elle a placées sous sa garde ?
Je ne saurais pas dire si c'est un échec ou pas, parce qu'à la base, un échec, c'est quand on essaye quelque chose. Or, de toute évidence, l'administration française, l'État, Madame Belloubet, n'a pas du tout essayé d'endiguer cette épidémie, n'a pas du tout essayé d'apporter des solutions à la population carcérale, que ce soit détenus ou agents pénitentiaires ou agents de maintenance ou cuisiniers ou infirmières. Ils ont répondu à aucun besoin et en fait, ils n'ont rien essayé. Même toutes les mesures qu'ils ont mises en place, elles ont été inutiles, en fait, on le voit bien. Même le fait d'avoir libéré apparemment plus de 5000 détenus, ouais, c'est bien, mais on ne parle pas non plus du nombre de détenus qu'ils ont fait rentrer entre-temps, qui est aussi énorme, en fait. Du coup, finalement, ils n'ont pas vraiment réduit la population carcérale.
Qu'est-ce que ça permettrait, justement, de réduire la population carcérale ? Ce serait pour éviter le surpeuplement dans les cellules et faire en sorte que, du coup, il y ait moins de risques de propagation ?
Oui, mais après, ça c'est une question très vaste parce que l'encellulement individuel, c'est normalement obligatoire par l'OMS, par la Cour des droits de l'homme. C'est l'Europe en fait qui oblige tous ces pays à avoir l'encellulement individuel. Or la France, elle n'y a jamais obéi en fait, elle n'a jamais fait ça. Et donc c'est quelque chose, ça fait des années en fait que la France doit se mettre à jour là-dessus et doit trouver des solutions afin de désengorger les prisons. Sauf que les tribunaux, je ne sais pas pourquoi, mais décident de continuer à faire rentrer les gens, finalement. Et on dirait qu'on ne rentre plus en prison juste parce qu'on a fait une erreur, mais parce qu'on a le mauvais avocat. Parce qu'on voit bien que certaines personnes qui ont un bon avocat et qui pourtant mériteraient d'être punies, on va dire, s'en sortent avec du sursis ou avec seulement une amende. Or que toutes les personnes qui vivent, par exemple, dans des lieux assez pauvres n'ont pas d'avocat et pour juste avoir volé dans un magasin ou quelque chose comme ça, ou pour avoir manifesté, ou pour avoir roulé sans permis, parce qu'il avait plein de raisons différentes, en fait, il se voit aller en prison. Et se retrouver avec 3 autres personnes dans une cellule, se retrouver avec plein de gens qui ne sont pas du tout comme eux non plus, quoi.
Donc une forme de justice à 2 vitesses, en fait.
Oui, c'est ça, c'est ça. Parfois, il suffit juste de... Lors d'une audience, si jamais c'est le bon avocat qui rentre, le juge sait déjà s'il va dire oui ou non. Il sait déjà qu'est-ce qu'il va donner à la fin comme verdict, selon l'avocat parfois. C'est aberrant quand on s'y intéresse ce qu'on peut découvrir.
Pour revenir à ce que vous disiez sur la mauvaise gestion de la crise sanitaire dans les établissements pénitentiaires, est-ce que, selon vous, ça ne montre pas justement un problème structurel ? Est-ce que ça ne met pas en lumière le fait qu'au-delà de l'épidémie, il y a un problème dans les conditions de détention en France ? Qui est réel et qui précédait cette épidémie et qu'elle met simplement ça en lumière.
C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que là, on profite un peu de cette crise sanitaire pour essayer d'élever nos voix en fait et de faire entendre ce problème-là qui est totalement invisibilisé et les gens ne veulent pas ouvrir les yeux devant ce problème-là. Ils préfèrent ne pas le savoir. Même la population française préfère considérer les détenus comme des personnes qui méritent de rester en prison parce qu'ils ne veulent pas accepter l'idée qu'on mette des personnes qui ne le méritent pas derrière des barreaux et qu'on leur fasse vivre une vie comme ça. Mais les problèmes sont là depuis longtemps, et même nous, notre combat et notre haine, elle est là depuis bien avant la crise sanitaire. C'est juste grâce à ça qu'on a réussi à se réunir et à écrire cette lettre. Mais il est bien temps, il est grand temps que, comme de toute façon le dit bien notre lettre, que l'État écoute un peu les condamnations qu'elle a eues et les recommandations de l'Europe.
Oui, justement, parce que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France à 17 reprises en raison des conditions de détention dans ses prisons. Ces condamnations concernent donc les conditions matérielles auxquelles les détenus sont soumis, les manquements en soins médicaux, les défaillances dans la prise en charge des personnes qui se sont suicidées également en prison. Vous, en tant que famille de détenus, comment est-ce que vous imaginez, au-delà de l'encellulement individuel, comment est-ce que vous imaginez qu'on pourrait améliorer les conditions matérielles de détention en prison ?
Eh bien, déjà, on peut... Très facilement, on peut prendre en exemple certains pays du Nord qui, eux, ont déjà un budget beaucoup plus grand pour les prisonniers. Finalement, moi, je pense que ce qui serait le plus important d'améliorer dans la prison, c'est vraiment la réinsertion. Axer tout sur la réinsertion, parce que, en fait, finalement, on envoie quelqu'un en prison et on fait en sorte que quand ils ressortent, eh ben, ils y retournent. Il n'y a rien qui est fait pour aider les gens à comprendre leurs erreurs, à comprendre leur parcours, pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés à se comporter de manière à finir en prison, et qu'est-ce qui peut les aider. Et là, je parle seulement des gens qui méritent d'être en prison, bien sûr, et qu'est-ce qui pourrait les aider à comprendre et à sortir en étant une personne qui ne refera pas les mêmes erreurs, quoi.
Donc il faudrait moins de répression et plus d'accompagnement, en fait.
C'est ça. Moi, je trouve que ce serait bien de faire des formations, en fait, auprès de tous les surveillants pénitentiaires pour leur faire comprendre que la haine des détenus, même si elle se remet sur eux, c'est parce qu'elle n'a pas le choix d'aller sur eux, parce qu'il n'y a que eux. Mais à la base, c'est pas de leur faute à eux si les gens sont en prison. Donc il faudrait qu'ils apprennent à relâcher la pression, et parce que finalement c'est les surveillants qui sont sous pression et qui après du coup vont se défouler sur les détenus, alors que leur rôle est d'accompagner. Et c'est bien écrit dans toutes les règles pénitentiaires européennes, c'est écrit dans tous les textes de loi, c'est écrit, voilà, les surveillants pénitentiaires sont censés assurer le maintien d'un bon équilibre, d'une bonne entente dans la prison, sont censés aider, écouter les personnes, comprendre leurs besoins et les aider à se créer un projet et à aller au bout de leur projet. Et ça, il y a trop peu de surveillants qui le font.
Pour l'heure, vous avez écrit avec quelques anciens détenus, des détenus et des familles de détenus, une lettre à la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, en demandant à ce que tous les détenus de France soient équipés de masques, de gel hydroalcoolique, de gants, de matériel de désinfection pour les cellules. Si jamais cette lettre demeure sans réponse, qu'est-ce que vous comptez faire ? Est-ce que vous envisagez de vous engager dans des procédures judiciaires ?
On l'envisage beaucoup, oui, évidemment, parce qu'à un moment, il va vraiment falloir qu'on trouve des solutions, et si jamais ils ne veulent pas nous écouter, c'est pas possible. On ne peut pas non plus juste se dire « Ok, taisons-nous et attendons ». On est obligé de trouver d'autres solutions, et on va, de toute façon, c'est une partie d'échec, hein. Quand on se bat contre l'État, c'est une partie d'échec, et donc il va falloir qu'on trouve les meilleures stratégies, et de toute façon, à chaque pion bougé, il va se développer de nouvelles stratégies, et on verra comment jouer notre jeu au fur et à mesure.
Il y a une grande solidarité, justement, dans les familles de détenus, et les anciens détenus, et les détenus pour ce combat, justement, pour améliorer les conditions de détention.
Oui, il y a assez. Ça fait chaud au cœur, ça fait du bien de voir le soutien que les gens peuvent nous apporter. Après, c'est comme dans toute cause, hein, évidemment, qu'il y a des gens qui ne sont pas vraiment dans le soutien et qui essaient plutôt de démotiver en pensant que ça ne sert à rien de se battre. Mais bon, c'est comme pour tous les combats, il y a toujours des gens qui découragent, et ce ne sont pas eux qui font avancer les choses. Donc, on se concentre sur les familles qui sont là avec nous. Et la plupart sont d'accord pour dire que c'est vraiment grâce à cette crise sanitaire qu'on a pu se réunir. Parce qu'avant, personne ne rentre en contact. C'est-à-dire que voilà, on avait notre conjoint ou notre frère ou notre fils qui est en détention. Ben, on va pas s'intéresser à aller parler à d'autres personnes qui sont dans des situations comme nous. Alors que là, il y a eu un besoin, quoi. On s'est senti tellement abattu par les mesures en place qu'on a été obligé de se soutenir entre nous, finalement.
Bah, merci beaucoup, Léa.
Merci à vous de partager notre message et notre lettre. Et j'espère qu'à Vezin, ils nous écouteront, qu'à la prison des femmes de Rennes aussi, ils nous écouteront, et qu'ils sachent tous qu'on est là dehors, qu'on se bat pour eux, qu'on est en train d'essayer de faire bouger les choses, et que même à Rennes, on est en train d'essayer de faire en sorte de leur apporter des protections, tout ça. Moi, je suis personnellement sur le front pour leur apporter des protections à la MAF et à la prison pour hommes. J'espère que ça va aller pour eux.